L'Europe ne se fera pas d'un coup.
Ce n'est pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons.
On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien.
France Culture.
L'Europe marche à nouveau sur deux jambes.
Les termes du débat européen.
Le débat, il n'est pas entre moins d'Europe et plus d'Europe.
Le débat sur l'avenir de l'Europe a ainsi été relancé.
Ce sera une autre manière de découvrir l'Europe.
Emmanuel Laurentin.
Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat spécial du vendredi, les termes du débat européen, émission pendant laquelle nous nous attachons à un terme qui nourrit le débat public aujourd'hui en Europe. À l'ordre du jour ce soir, immigration et Pologne. Nombre de reportages et de récits nous sont parvenus de l'entrée presque impossible des migrants en Méditerranée, de ce qu'on appelle les pushbacks, qui sont pourtant interdits théoriquement, repoussant loin des côtes de Grèce par exemple, ceux qui tentent d'entrer dans l'Union européenne. Mais nous en savons moins, beaucoup moins d'ailleurs, sur les frontières orientales de l'Europe, là où en 2021, le gouvernement par exemple biélorusse organisait depuis la Turquie l'arrivée de Syriens, d'Afghans ou d'Africains qui l'encourageaient à passer la frontière polonaise pour pénétrer dans l'Union. Et c'est la grande vertu et la terrible histoire que met en récit le dernier film de la grande réalisatrice Agnieszka Holland, Green Border, qui sort en salle mercredi. Nous y suivons le calvaire de celles et ceux, femmes, enfants, vieillards, qui ont cru qu'il serait simple de passer la frontière de barbelés traversant la forêt de Białowieża, je ne sais pas si je prononce bien le terme, voilà, pour entrer en Europe. Le film se déroule en 2021, alors que le pouvoir polonais est incarné depuis 6 ans par le parti Droit et Justice, qui a été porté au pouvoir au moment justement de la grande crise migratoire de 2015. Mais depuis la sortie du film, l'opposition incarnée par Donald Tusk est arrivée au pouvoir. Pour autant, la politique migratoire de la Pologne a-t-elle changé? Comment se pose la question de l'immigration selon que l'on est un pays qui a connu ou pas pendant des décennies l'émigration et qui devient depuis 5 ou 6 ans une des principales portes d'entrée migratoire en Europe? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Donc Agnieszka Holland, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cinéaste polonaise, réalisatrice donc de Green Border qui sort la semaine prochaine en salle. Prix spécial du jury de la 80e Mostra de Venise. Avec nous également Valentin Baer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de recherche au CNRS en sciences politiques. Vous travaillez sur les droites conservatrices et illibérales en Europe avec une spécialisation justement sur cette Pologne. Et vous avez publié « Science du passé, politique du présent ». La politique historique en Pologne. Merci Agnieszka Holland, on comprend qu'il y a ces cris de passage à la frontière. Merci de nous mettre en forme, d'une certaine manière, ce qu'on ne veut pas voir en Europe, ceux qui veulent entrer en Europe et que l'on repousse. Alors il y a le dispositif Frontex dans d'autres endroits de l'Europe, mais là ça n'est pas le dispositif Frontex, c'est d'une certaine manière une sorte de délégation de pouvoir au pouvoir polonais pour pouvoir justement empêcher des migrants que l'on ne veut pas sur le sol européen d'entrer dans l'Union. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce sujet ?
Envie, c'est peut-être pas un très bon mot. je sentais une espèce de colère. Je me suis dit que peut-être j'ai le devoir d'essayer de raconter cette histoire. J'ai fait dans ma longue carrière plusieurs films sur les crimes contre l'humanité, surtout Holocauste, mais aussi avec l'ombre de Staline et Holodomor, la crime de Staline. J'ai analysé de près les années 30 et 40 de 20e siècle. J'ai commencé à sentir que les vaccins de Holocauste qui a marché en Europe pendant plusieurs décennies a commencé de dévaporiser.
D'avoir moins d'efficacité d'une certaine manière, que cette image de la Shoah ne pouvait pas continuer à nous empêcher de, justement, d'avoir cette volonté soit d'exterminer, soit de mettre à part les populations dont on ne voulait pas, c'est cela?
C'est ça. Ça veut dire on a revenu un tout petit peu, on commençait de revenir au point zéro. Et avec toutes les complications, les défis de la modernité, on a compris qu'on va chercher les shortcuts, qu'on va chercher de nouveau certaines méthodes politiques qui seront soi-disant efficaces pour garder nos zones de confort.
Oui, alors, il y a évidemment quelque chose de très fort dans ce que vous dites, d'autant que vous avez fait plusieurs films à trame historique, vous êtes intéressé à l'histoire de votre pays et de l'Europe en général. En quoi votre regard de cinéaste qui travaillait sur l'histoire a nourri justement la façon dont vous avez envisagé Clean Border et ce film justement sur cette crise migratoire aux frontières de l'Europe?
Exactement, j'étais sensible à certains signes qui étaient peut-être invisibles pour les autres cinéastes, parce que j'ai vécu de très près, en faisant mes films, tous les mécanismes qui nous ont amenés vers finalement la crime ultime. Et je me suis dit que si j'ai fait ce film-là, c'était pas seulement pour raconter les histoires du passé, mais aussi pour voir à quel point certaines choses, certains mécanismes s'actualisent. Et je sentais le danger depuis assez longtemps. Et quand la crise migratoire a commencé sur la frontière polono-biélorusse, j'ai compris qu'il y a ici une histoire qui a le lien direct avec le passé et qu'il faut que je regarde de près qu'est-ce qui se passe et pourquoi que j'essaie de la raconter dans ma façon. En utilisant les moyens, l'appareil cinématographique qui est le mien. Je suivais la situation de la migration à partir de 2015 de près. J'ai compris que l'Europe n'a pas la réponse adéquate. J'ai compris aussi que c'est très, très facile à évacuer les problèmes, de fermer les yeux, d'extérioriser les problèmes et de ne pas comprendre à quel point c'est quelque chose où il faut trouver des solutions pour l'avenir, à quel point ça peut influencer notre avenir. La première réaction, c'était la montée des mouvements populistes extrême droite au sein d'Europe. L'Europe démocratique, l'Union européenne a pensé que...
Vous mettez des guillemets sur Europe démocratique.
Je fais les guillemets, oui. Ça veut dire, on vit certaines crises de la démocratie, ça c'est clair depuis assez longtemps, mais en tout cas, je pense que une des raisons de cette crise, c'est l'impuissance exactement des forces démocratiques.
Alors, Valentin Bert, vous êtes donc spécialiste de sciences politiques. Votre dernier livre s'appelle « Sciences du passé, politique du présent ». Vous y travaillez sur la politique historique en Pologne. On peut dire, et c'est pour ça que j'ai commencé avec Agnieszka Holland sur cette dimension donc profonde, pourrait-on dire, de l'histoire de la Pologne, que cette question est importante dans le sens où la Pologne s'est peut-être pensée d'abord récemment, au XXe siècle, comme un pays d'émigration et que d'un seul coup, elle devait gérer, et même une des premières nations en Europe d'ailleurs, en termes du nombre d'immigrés et en particulier depuis évidemment la crise et la guerre en Ukraine, une des premières nations qui devait imaginer qu'elle pouvait accueillir des gens qui n'étaient pas des Polonais. Et ça c'est important j'imagine et c'est aussi au cœur du film d'Agnieszka Holland.
Oui, en fait, le côté un peu paradoxal, finalement, de cette histoire, c'est que ça fait maintenant 6 années consécutives que la Pologne est le pays de l'Union européenne qui délivre le plus de titres de séjour à des étrangers non européens. Donc, effectivement, c'est essentiellement des Ukrainiens dont il s'agit. Alors, sans s'en être énormément vanté sous le gouvernement précédent, évidemment. Mais donc, la spécificité, c'est effectivement que c'est essentiellement des Ukrainiens qui arrivent en Pologne en gros depuis 2014, donc depuis le début de la guerre en Ukraine. Il y a également davantage d'immigration non européenne, y compris de pays musulmans, des Indiens, etc. Mais effectivement, comme le fait remarquer Agnieszka Holland, de manière un petit peu secrète, ou en tout cas sans que le gouvernement du PiS s'en soit énormément vanté.
Oui, on ne sait pas qu'effectivement, premières populations à venir en Pologne après les Biélorusses et les Ukrainiens sont les Indiens, les Colombiens, les Népalais, les Philippins, les Ouzbeks, les Turcs, les Bangladais et les Indonésiens. Effectivement, on n'imagine pas cela, effectivement, a priori.
Oui, et en lien avec cela, donc un phénomène relativement récent, effectivement, puisque la Pologne avait quand même perdu environ 2 millions de Polonais qui avaient émigré depuis 2004, depuis l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne, donc plutôt un pays d'émigration, sans même remonter aux vagues d'émigration beaucoup plus anciennes. Et l'enjeu migratoire est devenu véritablement un enjeu dans le débat public et politique. Donc le film d'Agnieszka Holland le montre bien, mais la dernière campagne des élections législatives de l'automne 2023 aussi, puisque le candidat Donald Tusk, qui dirige maintenant le gouvernement, a beaucoup mobilisé cet argument-là pour critiquer justement le PiS, dans le contexte d'un scandale de trafic de visas organisé au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et le candidat Tusk attaquait le PiS sur justement l'importance de l'immigration originaire de pays musulmans en Pologne. Donc on voit que cette forme d'hostilité à l'immigration extra-européenne et musulmane n'est pas propre au PiS en tout cas.
Oui, donc même ce gouvernement qui a pris le pouvoir avec la plateforme civique n'est pas exempt justement de ce regard porté sur cette immigration. Ce qui est intéressant, et ce que vous nous montrez, j'ai dit tout à l'heure, vous mettez en image Agnieszka Holland ce qu'on ne sait pas. C'est qu'effectivement, je ne savais pas qu'il y avait donc cet état d'urgence qui était décrété autour en particulier de cette forêt dont je parlais tout à l'heure, qui est une des forêt primaire, peut-être même la dernière forêt primaire d'Europe, je crois, qu'il y avait ce long mur de 200 kilomètres qui courait autour de la, entre la Biélorussie et la Pologne, et que donc il y a peu de témoins, et vous leur laissez la place dans ce film en faisant toute une partie autour des activistes justement qui sont en train d'essayer de sauver, d'aider les migrants qui passent la frontière de la Biélorussie à la Pologne, mais on ne voit rien d'une certaine manière. On pourrait se dire il y a là une sorte d'absence de témoignage, d'absence de vision.
Mais c'était le concept du gouvernement de loi et justice, exactement, parce qu'ils ont voulu profiter politiquement de cette situation, de la contrôler et manipuler les informations, la narration, les images, au point de pouvoir les utiliser en moment sensible politiquement, électoral par exemple. Les dictateurs d'extérieur, comme Poutine ou Kachin, ils ont compris la faiblesse d'Europe il y a longtemps. Ils ont compris aussi que manipulation des couloirs migratoires peut être l'arme très efficace et très bon marché pour déstabiliser l'Union. Et le gouvernement polonais de droite, il a pensé, mais nous aussi, nous pouvons l'utiliser. Et ils ont commencé à faire des choses qui m'ont bouleversée. Ils ont pratiquement illégalement fermé cette zone-là et ils ont interdit l'accès à toutes les organisations humanitaires, médicales, mais aussi à la presse, aux médias. Ça veut dire qu'ils ont voulu créer la zone des mensonges et des violences sans laissant les traces, sans... En contrôlant l'image qui sort. D'ailleurs, Monsieur Kaczynski a dit ouvertement une chose qui m'a beaucoup inspirée. Il a dit les Américains ont perdu la guerre au Vietnam parce qu'ils ont permis les médias d'y aller.
Alors, on a bien compris d'ailleurs que les Américains ont changé de position par rapport aux médias depuis la guerre du Vietnam et que beaucoup d'autres guerres menées par les Américains n'avaient pas de témoignage visuel de ce qui s'y passait.
Oui, mais pas au point de fermer complètement les zones. Ça veut dire que ce n'était pas si conséquent que les Polonais. Mais en tout cas, j'ai compris que M. Kaczynski, il a la foi en images. Il croit que les images ont une force. Et moi, quand je suis cinéaste, je me suis dit, oui, j'ai aussi cette foi-là. Et je vais la réaliser, je vais réaliser ces images qu'il a interdites et donner la voix à ceux qui étaient silencieux et donner le visage à ceux qui étaient anéantis, déhumanisés par les propagandas. Parce que, en même temps, quand la zone était fermée, il y avait plusieurs manifestations de gouvernements qui ont parlé de ces gens-là, pas comme des êtres humains, mais comme danger, et surtout, le ministre d'Intérieur, M. Kaminski, avec Wąsik, ils ont fait assez fameuse en Pologne une conférence de la presse qui était dans toutes les télévisions où il a dit que ce ne sont pas les êtres humains, ce sont les armes de Łukaszenko, mais ce sont aussi des pédophiles, les zoophiles, les terroristes, bien sûr, les violeurs. Et que tout que le gouvernement de PiS fait, c'est de protéger la Pologne de ce danger-là.
Oui, alors, Valentin Beyre, on voit bien effectivement ce caractère un peu assiégé d'un pays qui se sent menacé par une menace extérieure et une menace, vous avez mentionné cette question-là, extra-européenne, parce qu'il y a cette dimension aussi d'un pays qui, dans sa propre histoire, s'est raconté comme un pays unique, où la question, d'une certaine manière, des populations qui n'étaient pas catholiques. Alors, on sait très bien combien la question juive a été très importante dans cette histoire. Et d'ailleurs, le film d'Agnieszka Holland nous rappelle la polémique qu'il a pu y avoir autour d'un autre film qui s'appelait Ida, qui a été très mal reçu en Pologne, puisque considéré comme étant un film anti-polonais, comme l'a été d'ailleurs en partie le film d'Agnieszka Holland quand il est sorti à l'automne dernier. Donc il y a aussi cette idée de se construire une mythologie nationale et de voir arriver effectivement des gens qui ne sont ni catholiques ni même chrétiens et qui arrivent sur le territoire polonais dont on ne sait comment les traiter.
Oui, c'est une mythologie nationale qui oublie un peu que avant 1939, avant la Seconde Guerre mondiale, bien la sûr. Pologne est un pays quand même beaucoup plus divers sur le plan confessionnel, ethnique, etc. Il y a en gros un tiers de minorités nationales dans la Pologne d'avant-guerre, dont presque 10% de juifs. Donc la Pologne comme État homogène, peuplé de Polonais catholiques, c'est le résultat d'un processus historique extrêmement violent à la Seconde Guerre mondiale, et c'est quelque chose d'assez récent, puisque ça date de 1945. Après, effectivement, le fait que toute une mythologie nationale se construise autour de cette homogénéité, du stéréotype polac-catholique, ça a évidemment des effets en termes de refus d'une immigration extra-européenne. Peut-être qu'il faudrait aussi rappeler que le phénomène de l'arrivée d'un ensemble de migrants venus du Moyen-Orient et d'Afrique à l'automne 2021, il vient aussi dans un contexte un peu particulier, puisque c'est le gouvernement biélorusse qui prend l'initiative de faire venir des migrants dans un contexte de tensions exacerbées aussi aux frontières orientales de l'Union européenne.
C'est d'ailleurs Ursula von der Leyen qui a dit en 2021, il ne s'agit pas d'une crise migratoire, il s'agit d'une tentative de déstabilisation menée par un régime autoritaire contre ses voisins démocratiques. C'est l'ensemble de l'UE qui est attaqué, qui est défié d'une certaine manière, a-t-il dit.
Et ça explique aussi les réactions de soutien au gouvernement polonais de la part de la Commission européenne, mais aussi de la part du gouvernement allemand, sans condamnation de la fameuse pratique du pushback.
C'est extrêmement intéressant parce que votre film, je l'ai dit, a été accueilli de façon diverse en Pologne, et qu'en particulier, le gouvernement de l'époque, donc représenté par le Parti Droit et Justice, le PiS, vous a attaqué. Certains de ses membres ont dit carrément que vous étiez d'une certaine manière une mauvaise Polonaise.
Oui, j'étais pire que ça. J'étais attaquée par toutes les autorités, y compris ministre de la Justice, président du pays, le premier ministre, M. Kaczynski et les autres. J'étais traitée que je suis Goebbels, Hitler, Leni Riefenstahl, propagande nazie, mais en même temps Staline et Poutine. Ils n'ont pas essayé d'être mitigé, c'était très très violent, et c'était d'ailleurs, je pense, la campagne de la haine qui était organisée pour le biais électoral, disons, quand le film était montré pour la première fois en septembre à Venise, et on a décidé de l'ouvrir dans le cinéma polonais le 22 septembre, et les élections étaient le 15 octobre, et le temps était vraiment très très chaud. Et je pensais qu'il y aura des réactions, mais je pensais pas que ce sera si violent. C'est absurde.
D'ailleurs, parce qu'on a dit que vous montriez les Polonais comme des meurtriers, comme des bandits, etc., etc. Parce qu'effectivement, il y a des exactions qui se produisent dans cet endroit qui est un endroit de non-droit où on peut profiter de tout et de tout pour pouvoir gagner un peu d'argent ou humilier celui dont on ne veut pas sur le territoire polonais.
Le pire dans mon film, ce sont les gardes biélorusses, mais peu importe, dans le moment quand les autorités permettent les violences comme la réponse au conflit, et que les forces militaires sont pas seulement en désordre d'être violents et cruels, mais aussi ils sont primés pour ça. Il y a toujours des événements qui se passent. Ça veut dire qu'il y a même le signe de sadisme. Ce c'est normal, on les connaît de l'histoire. Mais je ne veux pas me défendre comme ça, parce que c'est un tout petit peu absurde, mais je montre aussi les Polonais les plus nobles.
Absolument.
Je montre plusieurs points de vue, et c'était pour moi important d'avoir certaines globalités d'objets, de montrer les choix différents, tragiques, souvent tragiques et dramatiques toujours, qui sont posés par la situation devant les gens des groupes différents.
Vous écoutez le temps du débat. Le terme du débat européen de ce jour, c'est le terme d'immigration, à l'occasion, entre autres, de la sortie du film Green Border de la cinéaste polonaise Agnieszka Holland. Nous parlons de Pologne en compagnie de Valentin Baer, chargé de recherche au CNRS et auteur de Sciences du passé, politique du présent, la politique historique en Pologne.
Je m'attends à des images choquantes, à voir ce qui se passe à la frontière et les choses illégales que fait le gouvernement là-bas. C'est un film militant, et venir ici, c'est rejoindre le mouvement.
C'est un bon film, le message est très fort. Et c'est assez triste qu'il ne sorte que maintenant, après toutes ces années de crise à la frontière.
Ce film doit être vu par le plus de personnes possible. La première heure est vraiment dévastatrice.
$300 now.
$300,
$300. Sir, please
don't get angry. I give you 300 euros. It's more than dollars, okay?
Come on, come on.
France Culture, les termes du débat européen. Emmanuel Laurentin.
Un reportage de Martin Chabal diffusé sur France Culture le 24 septembre dernier, lors de la sortie en Pologne justement de Green Border, le film d'Agnieszka Holland, qui est un peu au cœur de cette émission. Valentin Baer, vous nous disiez au tout début, il ne faut pas croire que l'élection d'un gouvernement qui ne soit pas le gouvernement du PiS, c'est-à-dire que le gouvernement dirigé par Donald Tusk, soit, disons, plus tolérant sur la question migratoire. On sait qu'il y a ce pacte qui a été signé le 20 décembre dernier entre les pays européens, et que la Pologne a déjà appliqué ce pacte, cette idée de répartir, mieux répartir les migrants arrivant sur le territoire européen entre tous les pays européens. Donald Tusk a déjà dit, en tout cas son gouvernement, qu'il n'allait pas l'appliquer ou qu'il ne voulait pas l'appliquer. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'un changement de gouvernement transforme complètement la vision que nous présente dans son film Agnieszka Holland.
Non, parce qu'en l'occurrence, le fait d'avoir une politique restrictive en matière d'immigration, c'est un problème européen.
Oui, c'est-à-dire on le connaît en France aussi, on l'a vu avec la loi immigration.
Bien sûr, on parle d'Europe forteresse et effectivement que on est au pouvoir des gouvernements d'extrême droite maniant une rhétorique xénophobe ou anti-immigration, ou des gouvernements qui s'abstiennent d'une telle rhétorique, on a globalement des politiques semblables. Et on connaît depuis maintenant un moment ce qui se passe en Méditerranée, on connaît les fameux règlements Dublin qui font que on renvoie vers les pays qui sont des points d'entrée dans l'Union européenne les demandeurs d'asile. Donc, encore une fois, le fait que le gouvernement polonais ait été félicité par ses homologues dans l'affaire de la frontière polono-biélorusse illustre cela. Alors, maintenant, sur le pacte migratoire européen, effectivement, il y a cette idée de quotas de répartition, justement, pour sortir de la logique Dublin. Donald Tusk a déjà affirmé, avant même d'être entré en fonction, que la Pologne n'allait pas l'appliquer. Maintenant, si j'ai bien compris, ce texte-là est encore en discussion au niveau européen. La Pologne devrait de toute façon être exemptée du mécanisme des quotas.
Il n'est pas encore voté au Parlement et par le Conseil. Je ne sais pas si ça va être fait bientôt.
Et si j'ai bien compris, la Pologne devrait être exemptée du système de quotas au motif qu'elle a déjà accueilli 1,5 million de réfugiés ukrainiens et que donc, en pratique, la question ne se poserait pas.
Oui. Et aussi, d'ailleurs, montré dans notre film... on montre à quel point l'accueil des réfugiés ukrainiens est différent de la part de la population. C'était vraiment un mouvement très spontané, très massif et très beau. Tous les Polonais qui ont accueilli les Ukrainiens avec les bras ouverts, mais aussi c'était soutenu par le gouvernement et par les militaires. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, c'était le contraire. C'était les hommes, les femmes et les enfants qui étaient poussés par les barbelés, battus et qui se sont retrouvés dans une espèce d'enfer.
Dans une sorte d'errance au sein de cette forêt de Białowieża. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous nous montrez comment le fait de ne pas voir Agnieszka Holland salit tout. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, cette question migratoire telle qu'elle est traitée par l'Europe est déléguée, en l'occurrence, au gouvernement polonais pour ce qui est de la frontière avec la Biélorussie, nous salit en tant que citoyens européens.
Ah ben, nous sommes tous responsables, bien sûr. Et c'est la responsabilité qu'on ne veut pas assumer. Et je comprends très bien l'angoisse des gouvernements européens que de céder au niveau de migration, d'ouvrir les portes dans certaines façons. Et ça va mener à la montée de nouveau de gouvernements ou des politiciens populistes, extrême droite et même fascistes. Mais en même temps, d'évacuer ces problèmes-là, ça ne change pas grand-chose. Selon moi, c'est le contraire. Le fait que nous ne parlons pas de ça honnêtement et moralement, et aussi qu'on veut oublier, évacuer ou suspendre les droits de l'homme et les lois internationales, ça nous mène seulement par les autres voies vers le même effet, ça veut dire la montée d'extrême droite dans pratiquement tous les pays européens. Et la réponse à ça, parce que si on suit cette logique-là, le premier pas, c'est ça qui se produit maintenant. Ça veut dire qu'on est susceptible au chantage de tous les dictateurs d'extérieur et intérieur. Et le deuxième pas, la prochaine pas, ce sera la violence globalisée. Ça veut dire l'accord pour utiliser les armes. Pour
éliminer. Oui, dans un très bon article paru très récemment dans Le Monde, Sylvie Kaufmann, qui s'est rendue à Varsovie, interroge entre autres Adam Michnik, donc le rédacteur en chef et le directeur du journal Gazeta Wyborcza, qui dit que pour la deuxième fois, la Pologne emprunte une voie dont nous n'avons pas le mode d'emploi. Alors, sortir de ce moment du PiS, de ces années depuis 2015 avec ce gouvernement qui était illibéral, pourrait-on dire, Valentin Ber, ça exige aussi une certaine dimension de qu'est-ce qu'on va faire d'une certaine manière. Et toutes ces questions, puisque le gouvernement de Donald Tusk explique qu'il veut rétablir l'état de droit, qu'il veut justement sortir d'un état d'exception tel qu'il avait été mis en place par le gouvernement Kaczynski en particulier, enfin les Kaczynski et tous ceux qui étaient au service du PiS, c'est une manière de dire on va rentrer dans une sorte de normalité européenne, mais comme vous l'expliquez bien, Valentin Ber, et ce qu'explique aussi le film d'Agnieszka Holland, eh bien la normalité européenne n'est pas non plus exempte de très grand défaut en matière de respect des droits de l'homme, par exemple.
Oui, maintenant, la spécificité quand même de ce qui s'est passé à la frontière polono-biélorusse avec la pratique du pushback et la zone d'exclusion dont on parlait, bien c'est sûr. Que le gouvernement polonais a violé des accords de droit international qui interdisent ces pratiques-là. Donc, le retour à la normale ou à l'état de droit à Varsovie depuis les élections, ça peut consister notamment à ce que on laisse les journalistes et les ONG humanitaires faire leur travail et que on renonce à recourir à la pratique du pushback, ce qui ne semble pas être tout à fait le cas, puisque Agnieszka Holland a été signataire avec quelques ONG récemment d'un appel au gouvernement à mettre fin à ces pratiques de pushback à la frontière.
Oui, avec la volonté politique n'est là. Mais la différence entre le gouvernement précédent, c'est qu'on peut discuter, qu'on peut parler, qu'il y a un dialogue et qu'on a les droits et les devoirs de faire la pression sur ce gouvernement-là. Mais il faut dire que, dans certaines façons, Michnik a raison. Ça veut dire que la situation de rétablir l'état de droit est extrêmement difficile. Et j'ai beaucoup de respect à Donald Tusk, qu'il a réussi la chose qui n'était pas réussie en Turquie, en Hongrie et dans les autres pays, et qu'il a gagné, créé la possibilité de travailler pour gagner avec les gouvernements autoritaires et populistes. C'est la seule bonne nouvelle politique en Europe depuis assez longtemps.
Oui, avec néanmoins des pratiques un peu dures, parce que quand il veut justement reprendre la main sur les médias qui étaient, disons, totalement dévoués à la cause du parti Droit et Justice, par exemple, eh bien, il fait de façon un peu
il le fait comme il faut, parce que dans le moment quand les institutions sont corrompues, contaminées éminés par le gouvernement précédent. Ils ont fait tout pour pratiquement contaminer toutes les institutions. Et en même temps, ils ont le président, ils ont toujours le président qui empêche de faire passer les lois votées par le Parlement. Il faut trouver les autres astuces pour se débarrasser de cette situation.
Oui, parce qu'il faut préciser effectivement qu'il n'est que Premier ministre, donc Donald Tusk, et que le président Andrzej Duda, lui, appartient au parti Droit et Justice et qu'il a la possibilité de mettre son veto sur certaines décisions.
Il a dit qu'il la fera à chaque reprise, ça veut dire il a annoncé hier ou avant-hier qu'il va le faire. C'est-à-dire il faut trouver les autres moyens. On peut pas, le pays peut pas être suspendu et le gouvernement élu démocratiquement complètement impuissant en face de cette situation.
Valentin Baer, il y avait en même temps que ce vote donc à l'automne dernier un référendum qui avait été convoqué par le parti Droit et Justice avec disons un intitulé qui était très clair, en tout cas on voyait très bien ce que voulait faire le gouvernement précédent. Acceptez-vous l'accueil de milliers d'immigrés illégaux du Moyen-Orient et d'Afrique dans le cadre d'un mécanisme forcé de relocalisation imposé par la bureaucratie européenne? Les termes avaient été bien choisis pour qu'on réponde oui ou non, mais il n'y a pas eu de résultat ce référendum. En même temps, il n'a pas atteint le quorum nécessaire, c'est cela?
Oui.
La participation est restée en dessous des 50% du quorum qui était nécessaire pour que le référendum soit valide. Il y a eu à peu près 40% de participation. L'opposition avait appelé à boycotter le référendum et les voix exprimées ont été très majoritairement contre l'accueil de réfugiés. Bon, la question était complètement biaisée, comme vous le disiez. Donc à presque 97%, ceux qui sont allés voter au référendum...
Les 40% dont vous parliez...
Se sont opposés à l'accueil de réfugiés venus de pays musulmans. Pour revenir ensuite sur la question de ce que fait le gouvernement Tusk, il y a effectivement cette question un peu de comment on revient en arrière après l'illibéralisme, le changement de régime, etc. Et l'un des enjeux quand même, effectivement, c'est de voir comment, alors qu'on avait un gouvernement du PiS qui était autoritaire dans pas mal de domaines, on parlait des médias publics, on aurait pu parler de la magistrature, mais ce que disait Agnieszka Hollande sur le sort qui a été fait au monde scientifique et de la culture, avec une véritable politique d'État en matière de ce qu'on a le droit de dire, que ce soit sur l'histoire ou sur ce qui se passe à la frontière polono-biélorusse, ça pose quand même la question de l'autonomie d'un ensemble de secteurs, qu'ils soient médiatiques, artistiques, culturels ou judiciaires, vis-à-vis du pouvoir politique. Et l'enjeu, effectivement, là, maintenant, c'est de voir comment on revient là-dessus, sans donner à son tour l'impression que, une fois qu'on a gagné les élections, on peut faire un peu ce qu'on veut avec l'administration, la justice, etc.
Agnieszka Hollande, sur ce point.
La question principale, c'est que si on respecte les lois qui sont anticonstitutionnelles, parce qu'ils étaient votés et tamponnés par le président, où on s'est dit, c'est pas constitutionnel, dans ce cas-là, on les respecte pas. C'est difficile. Mais moi, je pense qu'il faut trancher, autrement, tout le monde sera déçu, et tout le monde se sentira trahi, parce que les gens ont voté le nouveau gouvernement, parce qu'ils ont eu l'impression que ce sera le pays normal, ça veut dire le pays où la liberté des citoyens, la liberté et les droits d'hommes seront respectés. C'est ça essentiel, que la justice peut faire son route aussi, sans l'influence politique.
Vous nous disiez tout à l'heure que c'était une bonne nouvelle, c'était peut-être la meilleure nouvelle qu'on ait connue en Europe ces derniers temps. Qu'est-ce que ça faisait d'être justement citoyenne polonaise, alors que vous tournez un peu partout, pas simplement en Europe, mais aux États-Unis, Agnieszka Hollande, d'être une citoyenne polonaise pendant cette période de 2015 à l'année dernière, et d'être montrée du doigt en même temps que les Hongrois en disant, regardez, ce sont les pays libéraux, c'est la menace qui menace l'Europe, tout en sachant, et vous le dites très bien, que l'Europe en elle-même, y compris l'Europe démocratique qui respecte la majorité des droits de l'homme, n'est pas non plus exempte de très grands défauts, en particulier vis-à-vis de cette question de l'immigration.
Oui, écoutez, cette période de 8 ans, c'était le temps perdu pour beaucoup de gens, moi compris, et aussi les périodes où la Pologne a beaucoup régressé sur plusieurs plans. Mais pour moi, qui a vécu le communisme, après la lutte contre le communisme, après l'immigration et tout ça, c'était pour moi un pas en arrière assez triste. Mais en même temps, ce qui est le pire dans la situation comme ça, c'est à quel point la société se résigne, à quel point, par exemple, les cinéastes se conformisent, à quel point les judiciaires se conforment. Ça, il faut dire qu'il y avait des domaines où il y avait des gens qui sont militaient pour la Constitution, les juges surtout. Et je pense si on n'est pas aujourd'hui sur un désert de droits, c'est grâce à ces gens-là qui se sont battus pendant ces 8 ans. Il y a beaucoup d'espoir dans ça. En tout cas, moi, je pense qu'il faut soutenir le fait que la Pologne, dans ses élites, ne s'est pas résignée.
Valentin Baer.
Oui, je pense que ce que nous apprennent tant le résultat des dernières élections polonaises que un film comme celui d'Agnieszka Holland et sa réception, c'est qu'il y a quand même une assez grande vitalité démocratique en fait dans la société polonaise et que 8 années de gouvernement du Parti Droit et Justice se sont pas soldées par un tarissement complet de l'inventivité, de la réflexion. On parlait aussi d'un film comme celui de Pawlikowski, Ida, sur la question de la Shoah. Il y a des historiens qui font leur travail, il y a des ONG qu'on voit bien dans le film aussi, qui ont organisé l'accueil de réfugiés à la frontière polono-biélorusse, puis celui des Ukrainiens. Donc on n'est pas non plus dans un pays qui était dans une situation dictatoriale, autoritaire, comme d'autres. Et pour être peut-être un peu plus juste avec Donald Tusk, avec qui on n'a pas été très sympa, même si après tout il le mérite un peu, il faut dire aussi que la plateforme civique a beaucoup évolué pendant ces 8 années. Elle est revenue au pouvoir. Elle est en coalition avec la gauche, qui n'était pas au pouvoir depuis 2005 en Pologne. Donald Tusk, maintenant, est quelqu'un qui est favorable à l'avortement. Il en a beaucoup rabattu aussi sur les aspects libéraux de son programme économique. Donc c'est vrai que sur les questions migratoires, on ne voit pas forcément une différence de nature avec le PiS, mais sur un tas d'autres sujets, il y a une vraie différence qui existe. Et peut-être qu'effectivement, il y a une période très intéressante qui s'ouvre en Pologne actuellement.
Agnieszka Holland.
Oui, c'était la jeunesse polonaise qui a gagné ces élections. Je pense que cette jeunesse qui était bombardée pendant 8 ans de propagande éducative vraiment néfaste. On a vu qu'elle était immune dans sa grande partie, quand même. J'ai beaucoup à faire avec cette génération-là et je peux vous dire que, selon moi, c'est la meilleure génération que la Pologne a eue. Qu'elle est différente, qu'elle est beaucoup plus égalitaire, qu'elle est beaucoup plus tolérante dans le sens très large, et qu'elle peut se défendre devant les pressions des propagandas beaucoup plus que les autres générations avant. À quel point ça va durer, je ne sais pas. On entre dans les nouveaux dangers, l'intelligence artificielle. Ce sera le défi de nouveau pour à propos de la manipulation de la société. Mais j'ai bon espoir pour la jeunesse polonaise.
Merci en tout cas de ce message d'espoir d'une grande voix polonaise comme vous êtes, justement Agnieszka Holland, de penser que tout n'est pas perdu et qu'il y a la possibilité justement de faire revenir des espoirs dans des sociétés qui en avaient perdu beaucoup. Merci, il faut absolument aller voir votre film donc Green Border qui sort en salle mercredi prochain. Vous nous y montrez ce qu'on ne veut pas voir et c'est fort intéressant et surtout vous y montrez des personnages extrêmement forts qui sont des personnages
oui,
à la fois...
Oui, on a voulu faire en même temps l'expérience cinématographique, pas seulement parler de...
Bien sûr, exactement, il faut dire que c'est 8 000, un très beau film.
Presque 8 000 sont des Polonais se sont précipités pour aller au salle.
800 000, c'est ça, vous dites ? C'est beaucoup, effectivement. Merci à vous, Valentin Baer. Vous êtes auteur de Science du passé, politique du présent, un livre sur la politique historique en Pologne où vous revenez très lointainement, justement, sur cette question de l'usage de l'histoire, en particulier dans ce pays. Le temps du débat a été préparé ce soir par Fanny Richer, Roxane Poulin, Mathias Mégy, Anouk Sevno, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda, avec à la technique Nicolas Depagraf.